Et je vais isoler une des conclusions provisoires de nos analyses de la semaine dernière pour poser le sujet qui sera traité aujourd'hui. Je ne sais plus où j'ai le programme. Quelqu'un a le programme ? Bon, enfin, il s'agit de deux points essentiellement. Et là, nous abordons d'emblée le vocabulaire spécifique du discours de la Kabbalah, de l'enseignement des Mekoubalim, qui est la notion de Tzimtzum et celle de Shvirat HaKelim. Alors, le point que je voudrais isoler, c'était la question que nous nous sommes posée dans la définition de la différence, de la perspective de l'enseignement de la Kabbalah, d'une part, et d'autre part, de l'enseignement de la philosophie, du moins de la recherche philosophique d'un côté, et de la théologie de l'autre. La théologie, telle que nous la connaissons, j'y ai fait allusion la dernière fois, est une branche de la philosophie malgré tout. On pourrait la définir comme étant la philosophie religieuse, mais elle s'est quand même autonomisée, elle a ses postulats propres, ses méthodes propres, en particulier la référence exégétique aux textes considérés comme révélés, les textes prophétiques, qui sont, eux, en tant que tels, comme nous l'avons vu la dernière fois, la source escalité de la tradition kabbaliste, vraiment, de la Kabbalah, vraiment. Et nous avons vu là qu'il y avait là trois perplexités différentes. Celle du philosophe a pour objet l'homme, celle du théologien a pour objet Dieu, alors que celle du kabbaliste, à proprement parler, a pour objet le monde, l'existence du monde, que je formulerai de cette manière. Comment est-il possible qu'entre l'homme et Dieu, il y ait place pour un monde? Et en particulier, les principaux des maîtres de la Kabbalah ont abordé le problème de la manière suivante. Comment se fait-il que Dieu étant, il y ait place pour l'homme, il y ait place pour le monde qui sera le monde de l'homme? Et voilà donc, si vous voulez, le point de départ qu'on peut prendre pour l'analyse d'aujourd'hui. Cette question a été approchée par les différents maîtres de manière un peu différente. Je vais vous citer la manière dont le Rav Ashlag, dont je vous ai parlé la semaine dernière, la présente au début de sa première introduction à son commentaire du livre du Zohar, qui s'appelle le Soulam. Il pose la question de la manière suivante. Et en cinq points. Et voici comment il la formule. La question que je viens de rappeler, comment est-il possible qu'un monde existe? C'était la formule qui m'échappait. Le premier point, c'est, puisque nous sommes une pièce du monde, si j'ose dire, nous, les hommes, nous faisons partie de ce monde, quelle est notre essence? Quelle est notre identité? Parce que, en réalité, nous faisons partie du monde et nous n'en faisons pas partie. D'une certaine manière, nous savons que nous sommes insérés dans ce que nous appelons le monde, mais d'une autre manière, dans le sentiment de soi que nous avons l'expérience de n'en faire pas partie, ne serait-ce que par le fait que nous nous posons la question de notre essence, qui sommes-nous? Voilà ce que je voulais ajouter. La question de la Kabbalah ne va se poser qu'une fois que les deux questions préalables de la philosophie et de la théologie ont été élucidées. Ça sera notre postulat. C'est-à-dire, nous admettons, ce qui n'est pas toujours le cas, que le philosophe est arrivé au bout de son propre cheminement, il est arrivé à être rassuré des conditions de légitimité de l'existence de l'homme, que le théologien est arrivé au bout de son propre cheminement, il est donc rassuré des conditions de légitimité de l'existence de l'idée de Dieu, la théologie ne peut pas arriver au-delà. Et la question de la Kabbalah sur l'existence du monde ne se pose qu'une fois que les deux questions préalables ont été élucidées. Peut-être que c'est une des raisons, on pourrait en tout cas le formuler ainsi, qui fait que les kabbalistes ont l'habitude de demander une certaine préparation, ne serait-ce qu'au niveau de l'expérience de l'âge, avant d'aborder les problèmes que la Kabbalah pose. Il faut déjà avoir fini d'être philosophe, il faut déjà avoir fini d'être théologien, pour pouvoir aborder l'enseignement de la Kabbalah. Alors, vous avez une question quelque part derrière la tête, pourquoi? Ça, nous le verrons en conclusion. Vous comprenez la question? On le fait quand même. Eh bien, donc, voilà le premier point de la question de la Kabbalah formulée par le Rav Ashlag dans la référence que je vous ai donnée, l'introduction au Soulam. Et d'une certaine manière, encore une fois, nous sommes du monde, indéniablement, mais d'une autre manière, nous n'en sommes pas. Alors, qui sommes-nous? les hommes. Et vous comprenez comment la question est déjà formulée d'emblée comme une des dimensions de la question globale du discours kabbaliste, comment est-il possible qu'un monde existe ? Cette question se pose à l'homme. Les êtres de nature, qui sont les pièces du monde, ne se posent pas la question. Je le dirais peut-être d'une autre manière, en employant une formule très banale, nous savons que nous sommes ni anges ni bêtes. Si nous étions des anges, nous aurions la réponse, sans doute, à notre question « qui sommes-nous ?». Si nous étions des bêtes, nous ne poserions pas la question. Par conséquent, la question se pose ainsi pour l'homme. Le deuxième point, c'est « et s'il en est ainsi, s'il y a, disons, un mystère de notre identité dans le monde, alors quelle est notre finalité, quel est notre rôle, quelle est notre place parmi les autres pièces du monde, parmi les autres pièces de l'ordre du monde ?» Et troisième point, quoi qu'il en soit, nous nous connaissons d'emblée comme finis, comme limités, comme capables à la fois, c'est le paradoxe de l'homme tel qu'il se connaît, au point de départ de cette question, comme à la fois de grandeur, de relation aux valeurs, et aussi de petitesse, de bassesse, qui vient de notre finitude. Il y a là, du point de vue de la créature qui se connaît comme telle, l'homme, un problème de contraste absolu avec l'idée de Dieu comme créateur, tel que nous le connaissons par l'enseignement de la prophétie, et tel que nous le comprenons par la raison elle-même. Tant par la philosophie que par la théologie, que par la lecture exotérique de la prophétie, il y a un contraste absolu qui vient du sentiment que l'homme a de lui, parce qu'il se connaît comme fini. Donc, mystère supplémentaire, toujours à l'intérieur du même mystère. D'autre part, et là je crois que c'est le quatrième point, le problème du contraste, nous le percevons aussi du côté du Créateur. Comment un Dieu parfait, mettez le mot parfait entre guillemets, c'est un mot de la philosophie, pas de la Kabbalah, comment le Dieu Créateur a créé des créatures aussi imparfaites, des créatures se connaissant comme elles se connaissent, c'est-à-dire bien sûr capables d'être en relation aux valeurs les plus sublimes, mais capable aussi de petitesse les plus basses. Et en fin de compte, la question totale, la question de fond, la cinquième, qui récapitule toute, la grande exigence de cette créature qui se pose la question de son identité, de sa destinée, qui est perplexe quand elle découvre que c'est un créateur parfait qui l'a créé, perplexe de deux perplexités complémentaires, l'une venant de son propre sentiment de créature, l'autre venant de sa connaissance du créateur, ne serait-ce que connaissance allusive, c'est l'angoisse de la fin d'exister. Comment se fait-il que le créateur éternel ait créé un être fini dans le sens du temps, c'est-à-dire qui peut-être, je ne dis pas peut-être, parce que c'est sûr que pas, mais enfin c'est une question, mais vous avez compris, qui peut-être finira d'exister un jour, et là le contraste est métaphysiquement absolu, c'est la vraie question au fond de la Kabbalah, comment se fait-il que nous ne soyons pas éternels, puisque notre Créateur est éternel? C'est bien clair, c'est le problème de la Nitzriut. Voilà donc une des manières d'approcher de notre question. C'est celle que j'ai citée parce que nous avons l'habitude, en général dans la tradition, de citer toujours, du point de vue des méthodes en tout cas, les contemporains les plus proches de nous. Je crois qu'il y a la forme la plus parfaite pédagogiquement de poser la question par rapport à notre type de culture moderne, contemporaine, occidentale, vous le comprenez par vous-même. Or, à l'ensemble de ces questions, qui peuvent être formulées autrement, mais on arrive finalement à exprimer la même perplexité, en général, les traditions, et nous trouvons cela aussi dans beaucoup de milieux de l'enseignement de la tradition juive elle-même, n'ont qu'une seule réponse. Et cette réponse, c'est le péché originel. Mais c'est dommage de prendre trop de temps pour critiquer le péché originel comme réponse unique à toutes ces questions. Je vais simplement le faire en quelques phrases. J'ai choisi comme fil conducteur de ces analyses, et ça se concrétisera de plus en plus à la conclusion, la primauté du moral sur le métaphysique dans l'enseignement de la Kabbalah. Je pense que ça vous est indiqué dans vos programmes. Et en tout cas, il y a premièrement une question d'ordre, une objection d'ordre moral à se référer au péché originel comme étant l'explication magique à toutes ces perplexités. Que le péché originel ait eu lieu, on peut l'admettre. qu'il ait eu des conséquences, on peut l'admettre. Mais que le thème du péché originel, et j'oserais jusqu'à dire le mythe, en expliquant tout à l'heure la manière dont on en a fait un mythe, dans la tradition chrétienne essentiellement, mais aussi dans certains milieux de la tradition juive, eh bien, ne peut pas arriver à résoudre ces problèmes-là. Sinon, pour une conscience naïve, mais pas naïve dans le sens positif du terme, Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim, mais naïve dans le sens négatif, c'est-à-dire qui accepte n'importe quelle réponse, parce qu'en réalité, elle ne pose pas vraiment la question qu'elle pose. Comme vous savez, on dit souvent une question naïve. Il n'y a pas de question naïve. Si c'est une question, c'est une question. Et la question naïve, ce n'est pas une question. Et donc, la réponse naïve, non plus. Mais je crois qu'il y a là, surtout, l'objection principale qui procède de la sensibilité même du discours de la prophétie, et par conséquent, dès le commencement du récit de la Bible. Il y aurait une injustice colossale, incompréhensible, et pleine d'ironie, à ce que un geste de faute du premier homme qui aurait été le péché originel soit l'explication de l'état des choses dans le chaos du monde qui nous a menés, obligés, à poser les questions de la Kabbalah. Je pense que c'est suffisamment clair. Et en général, cette explication par le péché originel reste dans une mentalité mythique. On n'ose pas, parce qu'on a besoin d'une réponse, on n'ose pas envisager le contraste logique absolument immoral et donc illogique à un certain niveau entre la cause et l'effet. Et d'autant plus que la cause est très mystérieuse. Que signifie le fait d'avoir mangé d'un fruit? Et la conséquence est l'état du monde, d'où procède notre question. Je pense que ça suffit pour le Talmud, le Midrash, nous aide à comprendre ce récit du péché originel comme étant un geste important, avec beaucoup de conséquences au début de l'histoire de l'homme, mais il n'a pas, comme nous allons le voir par contraste avec les réponses de la Kabbalah elle-même, il n'a pas du tout la force de pouvoir répondre à nos questions. Et en général, en français, je préfère, pour donner la réponse juive à ce thème, le démythifier, parler du péché de l'origine, c'est-à-dire l'origine de toute faute, c'est la faute. Et c'est de cette faute-là qu'on parle. Si quelqu'un faute, le commencement de la faute consiste dans cette faute qui consiste à fauter, c'est-à-dire à désobéir à une volonté supérieure ou à une loi. C'est essentiellement ce que nous pouvons retenir au point de départ. Que le fait qu'il y ait eu une faute à l'origine a compliqué l'état des choses. Mais cet état des choses était déjà celui de l'état de chaos dès l'origine, avant même qu'il n'y ait de faute. Et ceci, nous devons surtout à la formulation du Hari, de l'avoir mise en forme. Je ne voudrais pas trop ouvrir de parenthèses historiques ou littéraires, mais enfin, quelques mots sont nécessaires. Je vous ai parlé du Hari la semaine dernière. Le Hari n'a pas écrit, lui, directement, sauf très peu de choses. Il n'a d'ailleurs enseigné que pendant 2 ans et demi, si je me souviens bien. Et c'est un de ses disciples principaux, le Rav Chaim Vital, Ben Yosef Vital, Chaim Ben Yosef Vital, qui a mis par écrit ses Darushim. Nous avons d'autres censions que celles du Morcho, mais on se sert en général de celles du Morcho, Morenu Harav Chaim Vital, on dit le Morcho, je ne sais pas comment on dit à l'université, hein? Non, ce n'est pas dans la tradition, on dit le Morcho. Et ce n'est pas Morcho avec Lamed, mais avec Resh. Et il y a peut-être des cercles extérieurs qui ont l'habitude de parler comme ça, mais c'est pas. Et alors, qu'est-ce que je disais? Oui. Qui a mis par écrit cela. Et j'en profite pour mettre en évidence un principe de la confrontation entre la perspective des historiens des religions et les hommes de la tradition. J'en ai cité un la dernière fois à propos de la datation du Zohar. Vous vous rappelez de cela? Mais je vous en citerai un autre à peu près dans le même sens. C'est-à-dire, ces enseignements mis en forme de plus en plus explicites de siècle en siècle étaient effectivement connus des initiés des siècles précédents, mais ils n'étaient pas devenus nécessaires d'en donner une explicitation tellement en détail. Et dans tous les cas, non seulement le texte de la Bible en fait foi, mais la formulation de Midrashim. Et c'est le deuxième verset de la Torah pour notre sujet, qui nous indique que le monde était à l'état de chaos avant même, bien entendu, que n'apparaisse l'homme, ou que, bien sûr, ce chaos est organisé suffisamment pour que le monde soit habitable par l'homme, mais il y a, et là vous retrouverez ceux qui sont un peu familiers aux sources, tout un faisceau de références, il y a une marge de chaos qui reste même après l'organisation au terme du sixième jour, qui est indiquée dans tous les midrashim qui sont sur l'expression « Asher bara Elohim la'at ». Je reprends. Asher bara Elohim la'at. J'espère que la prochaine fois on pourra disposer d'un tableau, mais encore une fois vous allez être obligé de visualiser les termes que je vais essayer de vous employer. C'est-à-dire le Midrash qui traite de ce point de notre sujet nous dit que Dieu a créé un monde qui était destiné à être achevé d'être mis au point. Point. Asher bara Elohim la'asso. Le mot de asso, pour le vocabulaire de la Kabbalah, ça veut dire l'étaken. Asiya, c'est tikkun. Et nous avons d'ailleurs des références dans les Midrashim sur d'autres versets. Faire, en français, ça ressemble beaucoup à créer. Alors que en hébreu, créer se dit baro. Et le résultat du créer, c'est l'état de chaos originel du monde. Ve'aretz haïta tohu vavohu. Ça nous le reverrons encore tout à l'heure. Cette matière première, du monde, à l'état de chaos, résultat du créé, est d'abord organisée, façonnée, ça s'appelle la Yetzira. Elle est ensuite mise au point, ça s'appelle la Asiya. Nous avons là différents niveaux de l'intervention de Dieu comme créateur, pour lequel, finalement, le français ne dispose que d'un terme philosophique général, créé, alors que l'hébreu en dispose de quatre. J'en ai cité que trois pour le moment, Bria, Yetzira, Asiya. Mais ce terme de Asiya, qu'on traduit par faire au niveau du dictionnaire, signifie l'étaken. C'est un des mots difficiles à traduire, l'étaken. Il y a deux dimensions au moins. Finir de mettre au point, achever de mettre au point, et restaurer, si cela a été, Erambrim le Kalkel, abîmé, dégradé, détraqué. Alors ce verset, Asher bara Elohim la'asot, indique qu'il s'agit d'un monde que Dieu a créé, Asher bara Elohim la'asot, pour l'étaken, pour mettre au point, pour achever de mettre au point. Et les midrashim que je vous désigne là indiquent simultanément Dieu et l'homme comme sujet de cette asiya. Retenez, pour ceux qui sont un peu familiers avec ce texte, l'importance de ces ramazim, de ces liens que nous ferons au fur et à mesure de l'analyse, l'importance que cela a pour la tradition juive, la notion de mitzvot ma'asiyot, le ma'asé à mitzvot, le na'asé venishma. Et c'est l'argument que je vous citerai pour indiquer que l'explication du péché originel se heurte à énormément d'objections majeures. La première, c'est une objection d'ordre moral. On nous fait un Dieu terrifiant, que les conséquences de cette histoire de pomme que personne ne comprend, sauf ceux qui la comprennent, bien sûr, seraient tout ce qui s'est passé dans le monde comme résultat de chaos. Ça n'est pas homogène à la sensibilité morale biblique. Ça ne procède pas de la conscience hébraïque, cette manière d'exprimer ce mythe, entre guillemets, du péché originel. C'est bien clair, je pense. Donc, et bien que, à certains niveaux, ça envahit la société juive et parfois des gens très sérieux. Mais je vous situe des frontières, des limites concernant ce problème. C'est qu'il y avait un état de chaos antérieur au péché originel, à ce qu'on appelle le péché originel. Cette faute, elle devient existante chaque fois qu'on la fait. Eh bien, cette faute-là a compliqué les choses, mais n'a fait que compliquer les choses. Il y a un état des choses originel qui lui-même reste à élucider. Alors, j'achève cette analyse, je ne sais pas si c'est la deuxième ou la première, de la manière dont le Rav Ashlag a posé la question, et j'indique que, à ce propos, qu'habituellement, on ne dispose que de la référence au péché originel pour essayer de répondre à ce problème, mais que cette référence est absolument inutilisable en réalité. On pourrait avoir uniquement un séminaire là-dessus, il y a une littérature traditionnelle abondante à ce sujet, mais je pense que c'est suffisamment éclairé. La réponse du Rav Ashlag dans cet agrama, et c'est en général la réponse des Mekoubalim, je vous citerai tout à l'heure aussi Zuzato, le Ramhal, Rav Haïm Zuzato, mon cher Haïm Zuzato, et qui est un de ceux qui a mis en forme, beaucoup plus proche de notre langage contemporain, l'enseignement du Rabbi lui-même, c'est que il nous faut arriver à comprendre que cette état des choses est nécessaire, que ça ne peut pas être autrement, et alors en vue de quoi ? Mais simultanément de comprendre qu'il est provisoire. Voilà l'essentiel de la réponse qui va nous être donnée. Nous avons tout le temps qui sera nécessaire pour élucider cette expression nécessaire mais provisoire. C'est cela qu'il faut comprendre. Ce n'est pas le résultat d'une inadvertance. Ce n'est pas le résultat d'une faute péché originel. Ce n'est pas, et en général les kabbalistes mettent ça en épingle, ce qu'ils refusent là dans ce troisième refus, ce n'est pas que Dieu a créé un monde, mais insatisfait de lui, l'a lancé dans l'espace et s'en désintéresse. S'il en était ainsi, nous ne serions même pas capables de nous poser la question. Mais rappelez-vous que nous ne posons notre question qu'après l'élucidation de la philosophie et de la théologie. Par conséquent, nous avons déjà un arrière-fond culturel de sécurité mentale, si j'ose dire. C'est bien clair. Donc, ce n'est pas inadvertance, caprice, arbitraire, péché originel, délaissement, désintéressement. Il y a une raison intrinsèque, une raison ontologique pour que l'homme puisse devenir ce qu'il doit devenir selon le projet du Créateur. Il faut passer par là. Alors, c'est cela qu'il faut élucider. C'est bien clair le premier point. Mais en même temps, l'homme de la Kabbalah, l'homme de la tradition, perçoit cette nécessité de ce monde-ci, parce que c'est ce monde-ci qui est comme ça, et vous comprenez déjà pourquoi nous allons tout de suite avoir un diptyque, ce monde-ci, le monde à venir, mais surtout les mondes. La Kabbalah ne parle pas en général de un monde, elle parle des mondes. C'est bien connu, okay, les olamot. Et en tout cas, ce monde-ci est comme ça, c'est le olam de la Asiya qui est comme ça, et de la perception très optimiste, enfin je veux dire qui est cause de leur optimisme, parce que la Kabbalah est une tradition optimiste. En général, les théologiens sont sérieux, c'est parce qu'ils ne sont pas très optimistes. Et les philosophes sont inquiets, c'est parce qu'ils sont très pessimistes. Je pense que c'est clair, mais un kabbaliste est très optimiste. Peut-être c'est comme ça que vous reconnaîtrez les rabbins kabbalistes, ceux qui sont heureux de vous parler de Torah. Il y en a qui vous parlent de Torah, mais j'ai rien dit. Alors, pour revenir au problème, la perception de cet optimisme vient de ce que, en même temps, il est perçu que ce nécessaire est provisoire. Et là, je vous formule une antinomie philosophique. Un cerveau philosophique ne pourra jamais intégrer une expression pareille. Si c'est nécessaire, c'est éternel. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, un nécessaire provisoire ? Bon, ben nous en expliquerons, mais vous aurez énormément de surprises de ce genre. Et c'était la définition de ce monde-ci. Voilà donc la réponse formelle qui va se substituer au cliché du péché originel. Alors j'aborde maintenant l'élucidation de ces deux notions de base dont on doit parler aujourd'hui. Et je reprends donc la formulation de la question centrale. Comment est-il possible qu'un monde existe ? Ça veut dire, comment est-il possible que dans l'être, il y ait une place pour l'être du monde ? Puisque, d'après les postulats préalables, des questions déjà élucidées, si Dieu est, il est tout. C'est bien clair. Je ne veux pas compliquer les choses en prenant aussi cette même question en sortant du discours philosophique. Si l'homme est, il est tout. C'est un peu la conviction de la philosophie, mais je le prends du côté de la théologie, c'est beaucoup plus homogène au récit biblique. Je pense que c'est suffisamment clair. Si Dieu est, il est tout, comment se fait-il qu'il y ait un monde ? Alors pour cela, très brièvement, je vais commencer par la critique de la notion de création telle qu'on la connaît habituellement d'après le discours de la philosophie religieuse, ou de la philosophie tout court. La notion de création par rapport à la pensée philosophique est une notion non rationnelle, une notion en dehors des prises de la raison, et c'est un objet de foi. Elle se définit par l'expression qui vient du latin « ex nihilo », l'être à partir du néant, je vous la dirai en hébreu, c'est « yesh me'ain ». Or, cette notion est connue, reconnue et diagnostiquée comme hors des prises de la raison. Sauf, petite parenthèse, dans le cas malheureusement très répandu, où la familiarité avec l'évidence de cette notion, mais évidence perçue par ailleurs, non pas au niveau de la raison, où l'on croit que cette habitude de l'évidence est, c'est cela la, l'expérience rationnelle, l'habitude de l'évidence se faisant prendre pour la raison. Je veux dire, au niveau de la conscience logique, il s'agit là d'un concept contradictoire, absolument. Du néant ne vient rien. Ex nihilo, nihil. La raison humaine sait cela. Si elle adopte cette définition de la notion de création, c'est qu'elle a des raisons d'être informée d'autre part de la vérité de cette évidence non logique, non rationnelle. Est-ce que c'est clair? Vous savez déjà que la personne humaine, elle est toujours le lieu d'une synthèse très paradoxale, pouvait avoir des ondes de raison, mais qui admettent la vérité de la notion de création. C'est pas par leur raison qu'ils envoient l'évidence de vérité. C'est qu'ils ont une information d'autre part, du côté de la foi, si j'ose dire. Est-ce que c'est bien clair? Et en général, dans notre temps culturel, ça vient tout simplement de la familiarité des évidences. Ça a été élucidé par nos ancêtres, cette évidence nous a été transmise, c'est évident que le monde a un créateur, c'est évident que le monde est créé à partir de rien en tant que monde, à partir d'un néant du monde, en tout cas. Avant d'être, il n'était pas ce qu'il est. Et on admet par familiarité cette notion, et ça n'annule pas le fait qu'elle n'est pas du tout objet de raison. C'est clair jusque-là. Bon. Alors, la Kabbalah va faire précéder la notion de inverse à la notion de création ex nihilo. En hébreu, encore une fois, pour nous aider un peu, en hébreu, création ex nihilo, ça se dit yesh me'ayin. La Kabbalah va nous enseigner une notion nouvelle, qui est une surprise pour l'esprit philosophique et théologique lui-même. C'est que à la création yesh me'ayin, elle substitue la création ayin me'yesh. Elle va nous parler de la nécessité d'une notion préalable, parce que c'est l'être qui est premier. L'être est premier. Pour qu'il y ait place pour le monde, il faut qu'il y ait une néantisation d'un point de l'être. Donc, et ne vous affolez pas, ça va s'éclaircir. Donc, cet être premier absolu va décider de créer un monde. Pour cela, il faut qu'il décide de se retirer d'un point de son être, de telle sorte de faire place au monde futur. Je veux dire au monde avec... Non, je ne veux pas dire même ça comme ça. Vous avez compris. Au monde qu'il veut créer. Monde éventuel. J'ouvre une toute petite parenthèse de théologie négative, si j'ose. C'est probablement ce thème-là sur lequel je reviendrai qui est à l'origine du mythe de la mort de Dieu pour le salut du monde que l'on trouve dans le christianisme. Je ne sais pas si vous voyez le rapport. Okay. En tout cas, pour revenir à notre problème, ça veut dire qu'on va découvrir encore une fois une notion métaphysique indispensable pour répondre à nos questions, et en particulier à la question centrale, comment est-il possible qu'un monde soit, mais l'abord de la tradition de la Kabbalah est d'emblée un abord moral. Créer un monde, ça veut dire créer quelqu'un d'autre que Dieu. Ça veut dire que le projet du Créateur est un projet moral avant tout. Parce que l'acte moral par excellence, c'est de faire exister autre que soi. C'est bien clair? Et je vous en donnerai d'ailleurs une illustration dans la tradition exotérique générale, qui est très connue d'autre part, mais simplement il faut faire le lien entre la question et la réponse. Alors, Sarah? Quelqu'un, Moussa. Ça veut dire que l'acte créateur n'est pas un acte fatal de la mécanique de l'émanation nécessaire de l'être se dégradant depuis l'esprit jusqu'à la matière, comme vous le trouvez par exemple chez Platon ou peut-être chez Leibniz. Et cette atmosphère d'espèce de fatalité du mécanistique aveugle et pessimiste au possible n'est pas du tout celle de la Kabbalah. Ce qui est perçu à l'origine, c'est pas la pensée impersonnelle, c'est la volonté, le ratzon, la volonté de quelqu'un. Et ce quelqu'un qui a voulu qu'un monde soit. Et pour qu'un monde soit, il faut bien qu'il y ait une place. La réponse est très simple. La place est en lui. Et pour que cette place apparaisse, si j'ose dire, il faut que d'une certaine manière, il se retire d'un point de son être. C'est, ça ne peut être entendu que par le biais de l'approche morale. C'est effectivement l'acte moral par excellence, c'est l'acte moral fondateur de toute morale. Retenez cela, c'est une parenthèse très importante pour la tradition en général, c'est que c'est le même homme qui a fondé la conscience morale et la foi dans le Créateur. Qui est cet homme ? Abraham. On est tellement familier, habitué, qu'on ne voit pas qu'il y a un monde de problèmes. Donc, ça ne va pas ensemble chez les autres. Il n'y a que chez Abraham que c'est le même acte de foi. Fonder la morale et la fonder sur la foi dans le Créateur. Abraham est en même temps l'homme de la brite avec le Créateur, de l'alliance avec le Créateur, et en même temps l'homme de la midata chesed, qui est la mida du Créateur en tant que tel, qui consiste précisément à fonder le commencement de la moralité, donner à autrui. Notre moralité, c'est donner à autrui, en quoi que ce soit un plus-être, un surplus d'être. La moralité du Créateur, c'est donner à autrui l'être. Par conséquent, l'acte créateur, c'est l'acte moral par excellence. Alors la Mishnah de la tradition exotérique que j'ai en tête, vous l'avez sûrement à la mémoire, Ezehu Gibor, Akovesh et Titzro. Je traduis. De qui peut-on dire qu'il est Gibor, qu'il est vaillant, qu'il est fort? C'est celui qui subjugue son instinct, littéralement. Ce que Kovesh, qui conquiert, qui est plus fort que ses propres tendances. C'était notre problème de tout à l'heure. Si Dieu est, il est tout, parce que l'être absolu est tout. La tendance de l'être à être, c'est d'occuper tout l'espace d'être et tout le temps d'être. Donc il n'y a pas de place pour autre dans l'être absolu. Le yetzer du Créateur, si j'ose dire, je devrais dire le yetzer du yotzer, ça fait joli, mais c'est juste de la poésie. Le yetzer du yotzer, c'est itpashtut. Itpashtut, ça veut dire expansion totale. Dès que je pose l'idée de Dieu, je pose l'infini de la totalité, ou la totalité de l'infini. Okay? Par conséquent, pour qu'il y ait une place pour l'autre qu'il veut créer, il faut qu'il y ait un tzimtzum. Alors, c'est là qu'on a abordé le premier point. C'est clair jusque-là ? Bon. Encore une fois, ce que je voulais mettre en évidence, c'est la signification morale de l'acte créateur, et pas du tout cette atmosphère de fatalité mécanistique dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est celle que projettent les historiens de la Kabbalah sur la Kabbalah. Ils ont appris ça chez Platon, ils ont appris ça chez Leibniz, ou chez d'autres Plotins, même par quoi. Mais ça n'a rien à voir avec cette fatalité d'émanation dégradante qui finalement va buter sur la matière. C'est clair jusque-là, okay. Et alors, quel est le sens du mot de Tzimtzum ? Le mot de Tzimtzum est d'abord employé dans la tradition en général, et même le Ramchal, dans un de ses enseignements, en tout cas, l'emploie dans ce sens-là, dans un premier sens, qui n'est pas celui du vocabulaire de la Kabbalie, de Kabbaliste à proprement parler. Les Tzamtzem, dans l'hébreu talmudique, qui s'est passé en hébreu moderne, ça veut dire rétrécir, rapetisser, condenser, les tzamtzem, occuper un espace moins grand et ou un temps d'être moins grand. C'est clair en hébreu, les tzamtzem, l'hébreu habituel. Hein? Et c'est-à-dire partir de la périphérie et se concentrer au centre, les tzamtzem. Et l'exemple qui est donné, c'est le tzimtzum de la shrina ben badeh akrovi, entre les ben badeh aaron, entre les montants de l'arche. La Shrina résidait sur l'arche, dans le Kodesh HaKodashim, et comment la Shrina peut résider sur l'arche, metzamtzemet et atzma. Ce sens-là, nous allons le retenir tout à l'heure, parce que je dois vous définir deux tzimtzum radicalement différents. Le premier tzimtzum qui doit répondre à notre question, ce n'est pas celui-là. Le premier tzimtzum, qu'on appelle aussi tzimtzum aleph, tzimtzum 1, opposé au Tzimtzum Bet, dont je reparlerai tout à l'heure, et qui est celui de la concentration dans un espace moindre, le sens du terme, et qui est appelé aussi, le Tzimtzum Aleph, est appelé le Tzimtzum Kadmon. Dans certains textes, le Tzimtzum antérieur, le premier Tzimtzum. Dans certains textes, on vous l'appelle aussi le Tzimtzum Mochlat. Bon. Voilà de quoi il s'agit. C'est que cette volonté de faire place à autre, autre sera le monde. Mais on va être averti tout de suite que autre, non, autre c'est l'homme. Et pour que l'homme ait une place, il y a un monde. Le monde n'étant créé que pour être la place de l'homme. Et l'intention du Créateur, selon le discours de la prophétie, et selon le sentiment de celui qui pose la question, parce que sinon ça ne répond pas à ma question, c'est que l'autre du Créateur, sur ce point de l'analyse, c'est l'homme qui a posé la question. Et le monde, eh bien le monde est nécessaire pour que l'homme ait une place. Nécessaire provisoire, ce monde-ci. Et la Kabbalah va jusqu'à dire les mondes. Les mondes, des plus supérieurs jusqu'au nôtre, ne sont là que pour que, en leur centre, il y ait la possibilité de la situation de l'autre que Dieu étant l'homme. C'est clair jusque-là? Bien. Alors, il faut un acte de retrait. Cet acte de retrait nous est décrit, là je suis au niveau du Tzimtzum Aleph, du Tzimtzum Kadmon, en partant du centre à la périphérie. Et par conséquent, cet acte de retrait fait apparaître une sphère vide. J'ai deux choses à expliquer, sphère et vide. Pourquoi une sphère? Tous les kabbalistes, et ça m'a toujours intrigué, je ne sais pas si je suis arrivé à comprendre finalement ce qu'ils voulaient dire par là, j'ai pas eu l'occasion de recevoir une réponse orale, donc je vous donne la problématique de la question. Tous les kabbalistes mettent le point là-dessus. Attention, c'est pas merouba, c'est pas cubique, c'est pas dryèdre, je ne sais pas comment on dit ça, c'est pas pyramidal. C'est sphérique absolue, parce que si c'était pyramidal ou si c'était, ce ne serait pas ce qu'il fallait être. Mais quoi? On ne comprend pas. On comprend en tout cas pourquoi il faut que ce soit sphérique. Enfin, c'est nécessaire qu'il en soit ainsi. Parce que l'être préalable au Tzimtzum, l'être occupant tout l'être, la Havaya, est absolue. Étant absolue, elle est Pshuta. Pshuta, ça veut dire simple, sans complexité. C'est le secret de l'unité de l'être primordial. L'unité absolue, c'est qu'il n'y a pas de complexité. Arkava, Zelomurkav, Zel Pashut. Si c'est Pashut, cet acte de retrait est égal dans toutes les dimensions. C'est bien clair? Alors, je vous donne une hypothèse, pourquoi les kabbalistes ont jugé que ce point était tellement important. C'est pour nous enseigner dès l'origine l'égalité de principe de toutes les créatures. Est-ce que vous voyez le lien? Bon, alors donc, on a peut-être là un commencement de réponse. C'est-à-dire, de toutes les créatures, quel que soit leur monde, quel que soit leur niveau dans chaque monde, dans le fait que, premièrement, elles existent. Ensuite, elles existent comme ça ou autrement. Dans le comme ça ou autrement, il y a des hiérarchies infinies. Mais dans le fait d'exister, mi karne re'em ad betse kinim. Mi betse kinim ad karne re'em. C'est la formule consacrée. Depuis les œufs des poux jusqu'aux cornes du renne, ça a la même dignité. Ça existe, premièrement. Tout ça, ça vient de la forme sphérique de la première sphère. C'est clair, Ken. Et là, nous abordons ça c'est toujours pour expliquer la sphère. Là, nous abordons un point important. C'est que, en fait, ce halal, vide absolu qui apparaît à l'intérieur de l'être, ne peut pas exister. Je ne peux pas employer les expressions qu'emploie le discours kabbaliste parce qu'il faut faire de la sémantique, de la linguistique énormément. Libro et halal et harioto. Vous entendez en hébreu. Ça veut dire faire créer un vide. Okay. Il ne peut pas exister. Pourquoi? Parce que, et que finalement nous allons le retenir plus comme un moment logique du discours de la Kabbalah, pour répondre à nos questions, que comme une réalité métaphysique ou ontologique. Pourquoi? Parce que dès l'instant où il apparaît, il est constamment détruit. Il est constamment envahi par la lumière qui avait été repoussée et qui revient betokev avec impétuosité, je veux dire, qui ne peut pas ne pas revenir betokev. Pourquoi? Parce que précisément, il s'agit de la havaya pshuta. Si la havaya est pshuta, il ne peut pas y avoir de harkava en dehors de la sphère du halal. Tous les mots vous ont compris? Non, je dis en français. Je le dis en français. Si la Havaya, l'être primordial, est simple, il ne peut pas y avoir de complexité d'être autour de la sphère qui était apparue. Et donc cette lumière qui avait été prise du centre de la sphère et rejetée aux alentours revient inévitablement. Donc le halal n'existe pas. Et pourtant, c'est la notion qui nous est indispensable pour comprendre la place pour le monde. Alors là apparaît un principe un peu difficile, je me bornerai à le signaler de temps en temps, c'est que ce que la Kabbalah nous dit n'a pas du tout le même sens d'existence ontologique de haut en bas et de bas en haut. C'est-à-dire le halal existe de bas en haut, mais il n'existe pas de haut en bas. Je vous en donner un exemple dans le texte de la Torah. Je refais le raisonnement pour vous montrer qu'il ne s'agit pas là simplement d'une formule arbitraire. Hein. Si on a compris la nécessité de ce halal, le halal c'est le vide. Hein. Alors, on comprend immédiatement en même temps qu'il n'est pas possible de rester dans cette situation de vide. Parce que la lumière qui a été rejetée en dehors revient inévitablement. C'est bien clair? Donc il n'y a jamais eu de halal. Et pourtant il y a les mondes. La réponse de la... C'est clair? Vous savez, tout... c'est pas encore clair qu'il y a du nom. Dans le halal, quand même. Si on a découvert enfin qu'il y a une place pour les mondes, eh bien, il s'agit du fait que les mondes sont dans un halal. On vient de découvrir que le halal était indispensable pour qu'il y ait des mondes, mais il n'y a pas de halal. Il ne peut pas y avoir de halal. C'est clair? Non, c'est pas clair. Dites-moi que c'est pas clair. Et alors, enfin, c'est clair que c'est pas clair. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Alors là apparaît un principe très important. Et très souvent, et vous le trouvez dans énormément de sources, les choses ne sont pas en haut comme elles sont en bas, les choses ne sont pas en bas comme elles sont en haut, mais c'est dit toujours de façon allusive. Je voudrais expliquer pour notre problème immédiatement. En vous donnant d'ailleurs un exemple dans un verset de la Torah qui est assez familier à tout le monde, mais que les kabbalistes ont relié à ce problème. Mais d'abord, l'idée elle-même. Nous allons parler à partir de maintenant de toute une série infinie de hiérarchies entre le Créateur et l'état actuel de la créature. Je répète, entre le Créateur et l'état actuel de la créature. Alors, dans l'ordre du même principe, ces hiérarchies existent de Dieu à nous, mais de nous à lui, il n'y a rien. Ça, c'est le monothéisme hébraïque. Vous avez compris ça? Alors, ça va dans le même sens. Comment? Je veux dire, le danger, le risque. Dès que l'on commence à décrire les structures de ces hiérarchies de monde qui vont de la du Ensof dont j'ai parlé la dernière fois, de l'être en lui absolu et sans fin, jusqu'à nous, de quelque manière que nous puissions penser le lien de créateur à créature, le lien de providence, il y a un lien de providence. Il faut donc qu'il y ait une infinité de hiérarchies qui va du plus infini à notre finitude. Quoique ce problème en lui-même est un sujet fermé. En ce sens que, entre l'infini et le fini, philosophiquement, c'est un concept contradictoire de croire qu'il y a un lien. Parce que, est-ce que c'est bien clair? Je vous donne un petit exemple que donne les kabbalistes. La lumière et l'œil qui voit. L'œil qui voit la lumière est de l'ordre du fini, mon corps. Mais c'est un fini très élaboré, très transfiguré. Imaginez la prunelle des yeux. Okay. Alors, elle peut voir la lumière qui serait le niveau le plus inférieur de la lumière de l'infini, ma lumière visible. Mais il n'en reste pas moins qu'entre ce niveau le plus inférieur de l'infini, la lumière visible, et la prunelle de mes yeux, le fini le plus transfiguré, il y a un abîme. Là, c'est du fini, et là, c'est de l'infini. Il y a donc là un mystère, okay, qu'on appelle dans les prières « mafli la rasot » ou « mafli la rasot ». On y reviendra d'ailleurs à ce problème. Enfin, admettons-le par postulat déjà, qu'effectivement, il y a toute une infinité de hiérarchies dans ces mondes que je vais vous situer dans le halal déjà aujourd'hui. Et alors, retenons cela, que ces hiérarchies sont réelles de Dieu à moi, mais elles n'existent pas de moi à lui. En toute situation, je suis